Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Diaran Diaye.
Bonjour à toutes et à tous. Journée mondiale du diabète ce mercredi 14 novembre. Le diabète, c'est une maladie non transmissible chronique qui se caractérise par des niveaux élevés de sucre dans le sang. Le pancréas ne produit plus assez d'insuline pour réguler cette concentration de sucre. La maladie concerne une part de plus en plus importante de la population mondiale. Selon la Fédération internationale du diabète, 425 millions de personnes dans le monde seraient touchées. En Afrique, contrairement aux idées reçues, le diabète et les maladies cardiovasculaires tuent plus que le sida. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, qualifie le phénomène de véritable pandémie car la progression est considérable. Ainsi, l'OMS prévoit 622 millions de diabétiques d'ici 2040. En France, 3,5 millions de personnes sont concernées par cette pathologie, mais ce n'est pas le seul chiffre alarmant. 700 000 Français ignorent qu'ils en sont atteints. Et pour cause, le diabète est une maladie silencieuse car les élévations du glucose dans le sang ne s'accompagnent généralement d'aucune manifestation. Cette absence de manifestation a évidemment des conséquences. Il arrive ainsi que le diabète de type 2 soit découvert par une complication grave comme un infarctus du myocarde ou un accident cardiovasculaire. C'est alors le signe que la maladie a déjà gagné du terrain de façon sournoise. Au-delà des symptômes, des prédispositions néanmoins peuvent alerter. Si une personne est en surpoids, qu'elle a des antécédents de diabète de type 2 dans sa famille et qu'elle a plus de 40 ans par exemple. Alors, quel changement au quotidien impose le diabète? Quelle prise en charge et quelle prévention? Et pour y répondre avec moi en plateau, le chef du service de diabétologie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et également auteur de l'ouvrage Le Grand Livre du Diabète aux éditions Erol, le professeur Jean-Jacques Altman. Bonjour professeur Altman.
Bonjour.
Et nous retrouverons également au Sénégal Maïmouna Ndour Mbaye, chef du service de médecine interne de l'hôpital Abbas Ndao, directrice du centre du diabète Marc Sankalé à Dakar au Sénégal. Et n'hésitez pas à nous appeler le numéro de priorité santé 33 1 82 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Et la Fédération française des diabétiques a dévoilé 15 propositions concrètes visant à améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients diabétiques. Ces propositions résultent de plusieurs mois de concertation à travers la France dans le cadre des états généraux du diabète et des diabétiques lancés il y a un an. On va justement débuter cette émission avec Gérard Raymond. Il est le président de la Fédération française des diabétiques. Bonjour monsieur Raymond.
Bonjour.
Alors, parlez-nous de ces états généraux du diabète et des diabétiques. Quel était l'objectif?
Alors, l'objectif était de faire le point, évidemment, sur la prise en charge des patients diabétiques et du diabète dans notre pays. Au moment où, effectivement, l'ensemble des acteurs pense que le système est en train de se transformer, que le président de la République a annoncé une stratégie de transformation du système de santé, en prenant aussi, pour exemple, la prise en charge des deux diabètes, du diabète du type 1 et du diabète du type 2, qui sont totalement différents dans leur prise en charge, eh bien, il était important que la Fédération française diabétique apporte son soutien et des propositions pour transformer ce système de santé.
Et comment ont été élaborées ces concertations et surtout?
Alors, pendant un an, nous avons élaboré des concertations, tout d'abord au niveau local, au niveau régional et au niveau national, d'une façon un peu classique dans les états généraux, c'est-à-dire faire remonter les cahiers de doléances, entre guillemets, par des réunions au niveau local, organisées par nos associations locales. Ensuite, au niveau régional, avec les ARS, les URPS et les acteurs régionaux, aussi en impliquant les politiques, bien entendu. Et au niveau national, en faisant une quinzaine de réunions, de groupes de rencontres, pour pouvoir échanger sur des thématiques qui nous paraissaient importantes, donc en regroupant tous les représentants nationaux, y compris d'ailleurs le ministère et l'assurance maladie, et bien d'autres acteurs. Et nous avons aussi, effectivement, utiliser les moyens modernes de communication avec plusieurs plateformes de contribution auprès des patients sur nos sites internet. Notre Lévis-Lab, le Diabète Lab, a évidemment fait une enquête sociologique sur le vécu des personnes diabétiques, leur ressenti face à la maladie et en tant que citoyen. Et tout cela nous a donné évidemment des milliers de propositions, de contributions que nous avons dépouillées pour arriver à ces 15 propositions pour une médecine fondée sur l'humanisme.
Alors justement, ces 15 propositions, elles ont été articulées autour d'une médecine fondée sur l'humanisme. Alors dites-nous pourquoi.
Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous considérons que notre système de santé fonctionne que sur un pied, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves. Il n'est pas question, encore une fois, de s'opposer aux preuves. Nous aurons de plus en plus besoin de preuves cliniques et scientifiques. Nous aurons de plus en plus besoin de données de santé pour pouvoir élaborer des campagnes de prévention, connaître l'état de santé de la population, etc., etc. L'intelligence artificielle ne peut se nourrir que de données de santé. Donc, il n'est pas question de s'opposer à ces données. Mais il est question aussi de dire que tout cela ne sont que des outils pour véritablement prendre en charge des personnes. Nous constatons qu'aujourd'hui, nous avons des recommandations pour prendre en charge tel ou tel type de diabète, tel ou tel type de cancer. Ce que nous voulons, nous, c'est prendre en charge telle ou telle personne atteinte d'une maladie, que ce soit un diabète type 1 ou un diabète type 2, et c'est la personne qu'il faut prendre en charge avec tous ses états physiques et métaphysiques, ses représentations, ses peurs, son niveau social et économique. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas.
Et toutes ces propositions, elles s'accompagnent d'actions concrètes qui devraient être mises en place d'ici à 2022. Il y en a 15, on ne va pas toutes les citer, mais on a par exemple l'aptitude à conduire désormais évaluée par le médecin traitant ou le spécialiste. Pourquoi était-ce important pour les malades atteints de diabète?
C'est un sujet extrêmement sensible et d'ailleurs on voit bien la façon dont tout le monde a réagi face à cette annonce. C'est tout simplement l'application d'un arrêté de décembre 2017. Nous avons discuté avec le ministère de l'Intérieur, la sécurité routière et il faut se féliciter de la compréhension de ces institutions, de ces ministères, et nous sommes arrivés à une meilleure compréhension des textes, et effectivement, cela rentre d'ailleurs dans notre volonté de faire une médecine fondée sur l'humanisme, c'est-à-dire sur la confiance entre les soignants et les patients, et nous disons que le premier stade de l'évaluation des hypoglycémies, de la compréhension de la maladie pour un patient diabétique, doit se faire avec le médecin généraliste ou le médecin traitant ou le médecin spécialiste pour un diabète type 1, avant que ce soit le médecin agréé de la préfecture qui le fasse.
Et ces propositions ont justement été présentées le 12 novembre dernier à l'Assemblée nationale française. Qu'attendez-vous des députés? Quelle sera la suite à présent?
Bien, il y a pas mal de textes, effectivement, et de propositions et d'actions que nous voulons mener, qui doivent être portées par la représentation nationale. Ce sont des modifications réglementaires ou des textes de loi. Et il nous paraît important qu'effectivement, la représentation nationale, mais pas que, il y avait aussi les institutions, il y avait l'assurance maladie, il y avait bien d'autres acteurs aussi. Et nous considérons que c'est l'ensemble des acteurs qui doivent continuer avec nous, apporter ces actions pour transformer notre système de santé. Encore une fois, si nous avons conçu ces 15 propositions par une consultation avec l'ensemble des acteurs, nous voulons continuer avec l'ensemble de ces acteurs-là à concrétiser ces propositions en action.
Une dernière question, Gérard Raymond. Après ces consultations, vous avez le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience, en France en tout cas, de changer son mode où ça reste encore compliqué autour de cette maladie?
Que ce soit compliqué, nous en sommes persuadés, et d'autant plus qu'il y a un mélange entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, ce n'est pas du tout les mêmes pathologies, et les représentations sont totalement différentes. La réalité de vie n'est pas du tout la même pour un jeune enfant d'une dizaine d'années et une personne d'une cinquantaine ou soixantaine d'années, donc il faut évidemment prendre en charge les personnes individuellement et non pas d'une façon globale. Donc on voit bien la complexité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des décideurs, au niveau de la stratégie nationale de transformation du système de santé, que ce soit au niveau des acteurs locaux, il y a une volonté de transformation. À nous de la promouvoir, d'aiguillonner les acteurs pour pouvoir arriver à une meilleure qualité de la prise en charge des personnes diabétiques, quelles qu'elles soient.
Merci à Gérard Raymond. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des diabétiques.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Jean-Jacques Altman, on va rentrer dans le vif du sujet autour de ce diabète. Il en existe plusieurs types. Alors nous, aujourd'hui, on a décidé de parler du diabète de type 2, car c'est le plus courant. Expliquez-nous ce qu'est ce diabète.
Bien, c'est un diabète qui, pour simplifier, on va dire, atteint des gens adultes. Avant, c'était plutôt 50 ans. Maintenant, c'est malheureusement plutôt 40, quand c'est pas plus tôt. Mais enfin, c'est quand même des adultes. Et des adultes qui sont très majoritairement en surpoids, qui ont trop de kilos de graisse, puisqu'on va appeler les choses par leur nom. Et cette accumulation de surpoids est liée à un mode de vie inadéquat, qui est essentiellement une absence d'activité physique, donc une sédentarité beaucoup trop importante et une mauvaise alimentation, aussi bien au niveau des quantités qu'au niveau de la qualité.
Et quels sont les signes d'alerte du diabète?
Alors, les signes d'alerte sont entre faibles et inexistants. Les trois quarts des diabètes de type 2, comme l'augmentation de sucre dans le sang, n'est que modérée, ne s'accompagne d'aucun signe, d'aucun symptôme. Et seules des prises de sang peuvent permettre de faire le diagnostic.
Et quand on parle de diabète, on parle souvent automatiquement d'insuline. Quel est son rôle?
Oui et non. Certes, l'insuline, qui est une hormone, un produit fabriqué par le corps, le pancréas, permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et quand on manque complètement d'insuline, on a le fameux diabète de type 1, dont on ne parle pas aujourd'hui, qui est un diabète, on va dire, de l'enfant. Dans le diabète de type 2, l'insuline est en quantité suffisante dans le sang, mais elle agit mal. Il y a ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc certes, on parle d'insuline au niveau des causes, au niveau de la physiologie, mais pas au niveau du traitement. Anciennement, le diabète de type 2 s'appelait d'ailleurs diabète non insulinodépendant. Le mot a changé parce que malheureusement, quand le diabète de type 2 est de très longue durée, très souvent, à la fin, on a besoin quand même d'insuline.
Peut-on rappeler peut-être les causes et les facteurs, en tout cas, de risque du diabète de type 2?
Eh bien, il y a des facteurs qu'on appelle inévitables. Et il y a des facteurs qu'on appelle d'environnement. Les facteurs inévitables, pour simplifier, sont de deux grands ordres. Premièrement, vos gènes, votre hérédité, ce que vos parents vous ont légué. Et il faut savoir que près de la moitié de la Terre a la prédisposition au diabète. Donc vous avez une chance sur deux, si j'ose dire, d'avoir les gènes du diabète. Bon, ça c'est un premier facteur. On ne peut vraiment pas le changer. Le deuxième facteur, on ne peut pas non plus le changer, c'est si vous vieillissez, c'est souhaitable. Parce que si vous arrêtez de vieillir, c'est que vous n'êtes plus là. Donc ça, c'est deux facteurs, vous ne pouvez rien faire. Bon, par contre, il y a les facteurs d'environnement. Et les facteurs d'environnement sont finalement résumables en une seule conséquence, qui est l'engraissement, la prise de poids, le surpoids d'abord, puis l'obésité ensuite. Et cet engraissement est lié à deux grands facteurs, une activité physique insuffisante, une sédentarité galopante dans les pays riches comme dans les pays pauvres, et une alimentation défectueuse avec des calories de mauvaise quantité, de mauvaise qualité et prises en trop grande quantité. Donc ces deux facteurs sont tout à fait modifiables.
Et comment se dépiste ce diabète? On a par exemple Abdulrahman d'Abidjan qui nous pose une question sur notre page Facebook et nous demande à partir de quel taux de glycémie est-on considéré comme diabétique?
Moi, je suis pas si attaché à ce chiffre, puisque comme je suis un diabétologue ancien et âgé, il a changé plusieurs fois pendant.
Actuellement, le taux est de combien?
Actuellement, le taux est d'un gramme 26. Mais je voudrais pas un gramme 26 par litre. Bon. Mais je voudrais pas non, si vous êtes en très fort surpoids avec vos parents diabétiques et vous êtes très sédentaire, même si vous avez un gramme 10, je vous assure que c'est pas bien. Donc finalement, c'est vrai que le chiffre a un côté un peu magique, mais il est trop manichéen. C'est un gramme 26, d'accord, mais si vous avez un peu moins et que vous avez quand même tous les autres facteurs de risque, trop de surpoids, trop de sédentarité, trop de tension, c'est exactement le même traitement que si vous étiez diabétique.
Et c'est souvent une prise de sang finalement qui
va... Finalement, il n'y a que la prise de sang qui peut vous le dire.
Oui. Et cette prise de sang, il faut la faire à partir de quel âge et pendant combien de temps?
Alors, malgré tout, avant 45-50 ans, le risque de diabète est assez faible. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire avant cet âge, sauf s'il y a beaucoup de diabétiques dans votre famille de type 2. Si vos frères et vos sœurs sont devenus diabétiques à 40 ans, peut-être que si vous-même, vous n'avez pas encore 50, vous pouvez le faire. Ça tourne entre 40 et 50, à nuancer en fonction de votre environnement personnel.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Jean-Jacques Altman, les auditeurs sont très nombreux à vous poser des questions. On a par exemple Aladji qui nous appelle de Guinée. Aladji, bonjour.
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 Aladji, on vous écoute.
Bonjour RFI.
Oui.
Moi, mon inquiétude, c'est par rapport à l'état de santé de mes parents, parce que j'ai mes deux parents qui sont diabétiques. Donc, je veux savoir quels sont les risques pour moi de finir diabétique.
Aladji, vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
D'accord. Professeur Altman, que peut-on dire sur cette hérédité dont on a un petit peu parlé tout à l'heure ?
Vos deux parents sont traités par quel médicament, s'il vous plaît ?
Ils sont avec la metformine.
D'accord, des comprimés. Donc vos parents ont bien le diabète de type 2 qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le risque héréditaire est très élevé pour vous-même, mais la possibilité de le prévenir est très 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 grande aussi. Donc vous êtes tout jeune, j'espère qu'actuellement vous avez un poids normal. Combien pesez-vous ?
Je pèse environ 70 kilos.
Et vous faites quelle taille ?
1m60.
Ah, donc vous avez un petit surpoids quand même. Donc, si vous réussissez à lutter contre ce surpoids qui ne doit en aucun cas augmenter, hein, si je peux me permettre d'être ferme là, et de préférence diminuer, si vous avez une activité physique suffisante et si vous avez une alimentation équilibrée, vous ne deviendrez pas diabétique avec l'âge. Si malheureusement vous n'arrivez pas à lutter contre le surpoids, à la fois avec une mauvaise alimentation et une activité physique insuffisante, vous risquez de devenir diabétique. Donc vous avez toutes les clés entre vos mains pour ne pas le devenir en ne prenant pas de poids. Et pour cela, vous devez plus faire d'activité physique et mieux manger.
Merci pour votre appel, Aladji. On a également Marius qui nous appelle de Ouagadougou. Marius, bonjour.
Bonjour, Diara.
Bonjour.
Voilà. J'avais quelques trois questions à poser. Mm-hmm. Comment faire pour éviter le diabète ?
Oui.
Et ils ne sont pas diabétiques, le papa ni la maman, mm-hmm. mais j'ai une grande sœur qui est diabétique. Je voulais savoir quel est le pourcentage, la probabilité qu'un autre membre de la famille soit diabétique. Mm-hmm. Et ma dernière question, quelle est la place du sport pour prévenir le diabète ?
Professeur.
Oui, bonjour monsieur. Quel est votre âge, s'il vous plaît ?
41 ans.
D'accord, très bien. Vous êtes un adulte jeune. Alors écoutez, de toute évidence, les gènes, le risque de diabète est présent dans votre famille, puisque vous avez au moins un membre connu qui en est déjà atteint. Donc le diabète de type 2 est très héréditaire, mais l'environnement va lui permettre de se manifester ou non. Donc vous avez un risque d'être diabétique, même si vos parents ne le sont apparemment pas, puisqu'une de vos sœurs l'est. Mais comme on vient de le dire à l'auditeur précédent, si vous maintenez un poids normal, eh bien vous êtes très peu exposé. Je peux vous demander votre poids et votre taille, s'il vous plaît.
J'ai 1m82 et je pèse 87 kilos.
Bon. Vous êtes plutôt musclé ou vous avez un peu de graisse ?
Parce que un peu de graisse.
Bon, c'est bien ce que je pensais. Bon, donc vous avez un peu de surpoids. Bon, essayez, si vous y arrivez, en mangeant mieux et en faisant l'activité physique, de perdre ce surpoids, et faites surtout qu'il ne s'aggrave pas, parce que le facteur de risque principal qui vous menace, c'est l'âge. Je vous souhaite d'être centenaire, donc plus les années vont passer, plus le risque de diabète va augmenter si vous n'arrivez pas à limiter votre poids. Ce qui me permet d'ailleurs de répondre à votre troisième question. Le sport, c'est l'activité physique la meilleure, on va dire. Alors le mot, en France en tout cas, ça fait peur. Bon, les gens ont peur de faire du sport parce que c'est fatigant, parce que ça coûte éventuellement de l'argent. Mais en fait, ni l'un ni l'autre. Et c'est une activité physique excellente qui est très contributive à la prévention du diabète, mais vous devez l'associer à des précautions alimentaires.
Professeur Jean-Jacques Hattemann, pour compléter un petit peu Marius, alors au-delà du traitement médicamenteux avec les anti-diabétiques, par exemple oraux ou les injections d'insuline, il y a aussi le traitement physique dont on parle depuis tout à l'heure, faire du sport, mais pourquoi bouger, c'est si important pour les diabétiques, ou, et pour prévenir en tout cas le diabète?
D'abord, c'est important pour tout le monde et les bienfaits de l'activité physique, sportive ou non sportive, sont importants au plan cardiovasculaire pour le cœur, l'attention, au plan respiratoire, au plan articulaire, au plan psychologique. Les gens qui font l'activité physique se sentent mieux dans leur tête que les autres. Et de plus, par rapport au métabolisme, à la régulation du sucre, l'activité physique, pour faire marcher les muscles, on va dire, consomme beaucoup de glucose. Donc ça contribue beaucoup à réguler le sucre. Donc malheureusement, c'est pas non plus complètement suffisant. Si vous ne faites que de l'activité physique, même intense, avec une alimentation de mauvaise qualité, ça ne va pas suffire. Mais c'est un élément extrêmement important pour contrôler toute la bonne santé du corps. Il n'y a pas de limite d'âge. Hein.
Alors là, le message est clair à tous nos auditeurs et même à moi-même. Mangeons équilibré et puis bougeons, faisons
voilà.
Du sport.
Hein. Pour l'instant, vous êtes mince comme tout.
Oui. Mais bon, je vais continuer à faire du sport. Bon, les auditeurs ne me voient pas, mais effectivement, bon. Alors, Marius, merci en tout cas pour votre appel du Burkina Faso. On a Inès qui nous appelle de Libreville. Inès, bonjour, on vous écoute.
Bonjour, Gara, bonjour, professeur.
Bonjour.
Oui, moi, je suis diabétique de type 2, non insulino-dépendante. Mes questions porteront autour du volet accès aux soins, suivi du diabète par le diabétique. Mm-hmm. Par exemple, nous avons le glycomètre. Il est facile de prendre sa glycémie à tout moment et tout. Pourquoi on ne vulgariserait pas cela à l'hémoglobine glyquée? Il faut aller à l'hôpital pour le faire. Je suis au Gabon. Mm-hmm. C'est pas facile d'avoir des sous pour pouvoir le faire. Ça, c'est ma première question. Si on avait un appareil qui pouvait faciliter cela, on pourrait faire nous-mêmes l'hémoglobine glyquée. Et c'est un indicateur clé vraiment pour le diabète dans les 3 mois, c'est ce qu'on nous dit à l'hôpital chez l'endocrinologue. Deuxième question, les bandelettes. C'est pas pris en charge par l'assurance. Je ne sais pas si dans d'autres pays ou en France, c'est pris en charge. Les bandelettes coûtent en moyenne 40 euros dans les 25-26 000 CFA. Et il faut, ça ne fait même pas 2 mois. On en a besoin. Si on prend une bandelette par jour, on en a pour 50 jours. Ça fait même pas 2 mois. Donc, tout ça là, est-ce qu'il n'y a pas moyen avec votre influence? L'émission, elle est tellement écoutée, tellement prise en compte et tout. Comment on peut faire pour gérer ça?
Eh bien, vous avez lancé un bel appel, Inès. Hein. On appelle en tout cas à diminuer ces tarifs. C'est très important, le coût, effectivement, de cette prise en charge. Professeur Hattemann, qu'est-ce qu'on peut dire à Inès? Elle a posé deux intéressantes questions, notamment, elle a parlé de glycémie et d'hémoglobine glyquée. Bon, c'est peut-être le jargon des diabétiques, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Oui, c'est un jargon qui est très répandu, mais je crois que presque tous les diabétiques connaissent le terme d'hémoglobine glyquée, mais on va rappeler pour l'ensemble des auditeurs. Oui. C'est les globules rouges qui se sucrent, si j'ose dire, en fonction du taux de glucose dans le sang. Et comme les globules rouges vivent environ 3 mois, puis après ils sont changés, ils sont entièrement renouvelés, eh bien ce taux d'hémoglobine glyquée reflète l'équilibre glycémique des 3 derniers mois, et c'est un marqueur indispensable au suivi du diabète. Alors oui, il commence à exister d'autres méthodes que les méthodes de dosage direct. C'est surtout des méthodes fondées sur ce qu'on appelle des algorithmes, des calculs élaborés à partir de relevés glycémiques extrêmement nombreux. Donc malheureusement, pour l'instant, ça ne va pas résoudre votre problème, parce que pour que l'hémoglobine glyquée puisse être calculée et non mesurée, il faudrait faire énormément de tests, qui est justement un facteur limitant dans votre cas. Alors, et il y a également des progrès au niveau de la lecture directe de l'hémoglobine pour l'instant, c'est pas encore disponible d'une manière courante dans des petits appareils portables. Alors, quant au coût, je peux vous donner la situation pour la France. Pour le diabète de type 2, c'est remboursé, mais avec une limite qui est plutôt inférieure à celle que vous nous signalez, puisque la France rembourse 200 bandelettes par an. Ce qui fait environ une bandelette un jour sur deux. Alors vous parliez d'une bandelette par jour. Bon, peut-être qu'avec une bandelette un jour sur deux, par exemple après un repas excessif, pour tester quel est l'effet sucrant d'un aliment, vous pouvez le faire et c'est peut-être pas nécessaire d'en faire tellement plus.
Merci beaucoup Inès pour cet appel.
Priorité santé sur RFI.
Le diabète, c'est cet excès permanent de sucre dans le sang lié à l'insuffisance d'insuline. On en parle dans Priorité santé sur RFI. Une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et la malaria. Et contrairement aux idées reçues, le diabète n'est pas l'apanage des pays développés. Sa progression est fulgurante dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique. Il y est responsable de 10% des décès. Et nous rejoignons au Sénégal, professeur Maïmouna Ndour Mbaye, chef du service de médecine interne de l'hôpital Abbas Ndao, directrice du centre du diabète Marc Sankalé à Dakar au Sénégal. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors pourriez-vous nous dire quelle est la prévalence du diabète au Sénégal?
La prévalence du diabète est mieux connue depuis l'enquête nationale qui a été faite en 2015, l'enquête nationale STEPS, qui a révélé une prévalence de 3,4% dans la population. Il faut préciser que cette prévalence a été observée chez les sujets âgés de 18 ans à 70 ans. Mais quand on prend la tranche d'âge des plus de 45 ans, cette prévalence augmente à 5,4%.
Mmh. Comment expliquer l'ampleur de cette épidémie finalement? Pourquoi le diabète se développe tant au Sénégal?
Il ne s'agit pas que du Sénégal. En fait, l'augmentation de la prévalence du diabète, elle est mondiale. Mais vous l'avez dit, cette augmentation sera plus nette dans les pays en voie de développement. Il est estimé, selon la Fédération internationale du diabète, que 3 personnes sur 4 ayant le diabète vivent dans les pays à revenus faibles et modérés. Ceci est certainement dû à la modernisation, en grande partie liée à la modernisation de notre mode de vie. Nous avons hélas importé les mauvaises habitudes alimentaires et d'hygiène de vie des pays développés. Et cela explique peut-être que, avec cette transition nutritionnelle en particulier, que le diabète augmente plus dans nos pays.
Et plus de la moitié des diabétiques ne savent pas qu'ils le sont. J'imagine que le dépistage est difficile aussi chez vous. Est-ce que les patients viennent vous voir à temps?
De plus en plus, les patients viennent d'eux-mêmes pour consulter parce qu'ils sont mieux sensibilisés aux facteurs de risque de la maladie. Effectivement, on sait qu'une personne sur deux ayant le diabète n'est pas diagnostiquée et ceci est en grande partie lié au caractère sournois, indolore de la maladie, de l'affection. Mais de plus en plus, avec les campagnes de dépistage, avec les campagnes de sensibilisation, les personnes, les populations sont mieux informées sur les risques et viennent d'elles-mêmes se faire dépister.
Et quelle sensibilisation est justement mise en place au Sénégal? Que propose le centre du diabète Marc Sankalé que vous dirigez?
Le centre du diabète Marc Sankalé a un long passé, une longue expérience dans l'éducation des diabétiques. Nous avons commencé depuis 1979, nous avons mis en place un programme d'éducation qui s'appelle l'Action populaire d'éducation des diabétiques, l'APEDIA. Dans cette action populaire d'éducation des diabétiques, nous éduquons non seulement les patients atteints, mais aussi leurs familles et leur entourage. Nous les sensibilisons aux facteurs de risque et nous essayons de faire de la prévention primaire pour éviter que ces personnes qui sont à risque ne développent la maladie, pour éviter également que les personnes qui ont la maladie ne développent les complications. Il y a un long passé d'éducation et beaucoup d'activités de sensibilisation. Mm-hmm. Et de plus en plus, nous essayons de décentraliser ces activités, de ne pas rester seulement à Dakar, mais de le faire également dans les régions.
Est-ce que dans cette sensibilisation, il y a aussi l'éducation diététique? On sait que les Sénégalais sont férus de thiep et notamment le fameux thiéboudienne.
Bien sûr, l'éducation implique, commence par, c'est, en grande partie, c'est de l'éducation diététique. C'est une éducation à l'hygiène de vie en général, parce qu'il n'y a pas que la diététique, il y a également l'activité physique. Mais l'éducation diététique est très importante. Il s'agit d'encourager les patients, mais aussi leur entourage, à adopter une alimentation saine et équilibrée. L'éducation diététique, auparavant, la façon de dispenser cette éducation a beaucoup changé. Elle s'est améliorée avec le temps. En ce moment, nous faisons l'éducation sous forme de causerie de groupe. Nous discutons avec les patients parce que l'éducation doit être adaptée aux habitudes alimentaires de l'individu. On ne peut pas, par exemple, imposer à un patient sénégalais d'adopter une alimentation de type européen. Donc, nous nous basons sur ses habitudes alimentaires, mais également sur son pouvoir socio-économique, son pouvoir financier, pour donner des conseils pour améliorer son alimentation.
Et justement, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on pourrait donner quelques aliments, en tout cas sains, pour les auditeurs, notamment africains, qui nous écoutent ?
Nous les encourageons beaucoup à manger beaucoup de légumes. Quand on prend le repas sénégalais traditionnel, généralement les légumes sont trop cuits, et bien souvent, ils ne sont que décoratifs sur le plat. Ils finissent à la poubelle. Mais nous encourageons à moins cuire les légumes pour ne pas perdre cette valeur nutritive, mais également à en consommer beaucoup. On essaie de leur donner des proportions. C'est difficile, par exemple, dans un plat où on mange en commun, où peut-être qu'il n'y a pas assez de légumes, pas assez de viande, de favoriser une seule personne au détriment des autres. Mais nous faisons de notre mieux pour leur dire de consommer, par exemple, les légumes de saison. Voilà. Dans l'éducation thérapeutique, nous amenons même les légumes et tous les aliments qui sont consommés au Sénégal pour leur montrer. Pour l'instant, nous voudrions même faire des ateliers culinaires pour montrer comment cuire les repas. Parce qu'il n'y a pas que l'aliment qui est important, il y a également la cuisson, la façon de cuisiner cet aliment est également importante dans l'éducation diététique.
Professeur Maïmouna Ndourmbaye, et au niveau de l'accessibilité au traitement, on sait que particulièrement dans les pays du Sud, c'est une problématique majeure. Alors vous, comment vous traitez les patients? Est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés d'accès au traitement?
Nous en rencontrons, c'est évident. Nous savons que dans les pays développés, les patients diabétiques ont un accès complet aux médicaments et aux autres composants de soins du diabète. Ce n'est pas le cas chez nous, parce que de nombreux patients n'ont pas accès aux médicaments de base, par exemple à l'insuline, à la surveillance glycémique, aux soins médicaux spécialisés, à l'éducation thérapeutique, ou alors l'accès est limité. Et on sait que ceci est souvent dû à des prix qui sont inabordables ou à des soins qui sont tout simplement non disponibles dans leur région. Et ça a des conséquences majeures. Donc nous essayons ici, en tout cas, le gouvernement du Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour ce qui est de l'accessibilité à l'insuline, puisque l'insuline est subventionnée, ce qui la rend 10 fois moins chère que dans la sous-région, par exemple. Les médicaments, il y a eu beaucoup d'efforts sur les médicaments oraux également, qui coûtent moins cher. Certains sont disponibles sous forme de générique. Mais beaucoup reste à faire pour rendre ces médicaments plus accessibles.
Professeur Maïmouna Ndourmbaye, on a justement un auditeur qui nous appelle de Touba, au Sénégal, ville que vous connaissez certainement. Il y a des questions à vous poser. Biran, bonjour.
Oui, bonjour.
Biran, bonjour. On vous écoute.
Oui, bonjour. J'ai une question. Parce qu'en janvier passé, on m'a déclaré diabétique dû à une crise de glycémie de 5D. Donc, depuis ce temps, je suis insulino-dépendant. Donc, je voulais savoir, à court terme, il y a des conséquences liées à l'insuline. Je voulais savoir si il y aura des complications, si ma vie sexuelle, parce que j'ai vu qu'il y avait une diminution du désir et puis une mauvaise qualité du libido. Donc, et puis s'il y avait un risque de transmettre à un futur enfant cette prédisposition génétique à la diabétique.
Professeur Maïmouna Ndourmbaye, que peut-on répondre à Biran ?
Biran, si vous avez réellement un diabète de type 1, le risque de le transmettre à votre enfant est...
De type 2, c'est de type 2.
Vous avez dit que... Oui, de type... Voilà, il a dit qu'il était...
Ah ok, ben, c'est le type 2.
C'est le type 2 qui est insulino-traité. Alors je suis un peu étonnée que si vous êtes du type 2... Si vous avez eu 5 grammes de glycémie, vous avez été mis sous insuline, mais cette insulinothérapie, en principe, devait être juste transitoire. et le relais devait être pris par les antidiabétiques oraux dans un premier temps. Je suis étonnée que vous soyez encore sous insuline pour quelqu'un qui est du type 2. Ça, c'est la première chose.
Maintenant, j'ai fait un voyage.
Entre-temps, vous avez fait un voyage, c'est ça?
Attends, j'ai fait un voyage, donc ça fait 3 mois que je n'ai pas consulté mon médecin. Sinon, voilà, il m'avait donné un papier pour que j'ai fait au moins j'ai fait des examens.
D'accord, il y a bien une suite du traitement, professeur.
Il y a bien une suite du traitement. Je vous encourage vivement à retourner voir votre médecin pour réadapter votre traitement. Maintenant, si vous êtes diabétique, le risque pour votre enfant de devenir diabétique se manifestera quand il atteindra l'âge adulte. Parce que c'est développer un diabète de type 2 comme vous. Donc l'hérédité dans le diabète de type 2, c'est à l'âge adulte que les enfants risquent comme leurs parents de développer un diabète. Mais cela dit, le fait de posséder un parent diabétique n'implique pas nécessairement de développer la maladie. Il existe d'autres facteurs d'environnement et de mode de vie qui influencent fortement le risque de développer cette maladie. Le professeur Altman en a parlé. Ce sont ces facteurs de risque qui sont modifiables et contre lesquels il faut lutter dès maintenant parce que les bonnes habitudes s'instaurent dès l'enfance.
Professeur, Biran avait une dernière question autour de sa sexualité.
Est-ce que je dois avoir peur? J'ai vu qu'il y a une baisse de libido et une baisse du calcul de l'esperme ces derniers moments.
Ça fait partie des complications chroniques attendues du diabète. Effectivement, on l'appelle en termes médicaux la dysfonction érectile est une des complications du diabète. Cela dit, si vous restez bien suivi et bien équilibré, le risque de développer cette complication est beaucoup moindre. Il ne faut surtout pas stresser parce que le stress va à une action très importante sur la libido aussi.
Alors Biran, vous avez entendu, hein, n'oubliez surtout pas de consulter de nouveau votre médecin et de prendre soin de votre santé en mangeant équilibré et en faisant du sport. Merci pour votre appel. Professeur Maïmouna Ndourmbaye, juste avant de vous laisser à vos occupations, peut-être nous laisser un message de prévention que vous souhaitez lancer aujourd'hui à nos auditeurs?
Oui, je voudrais rappeler le thème de la journée mondiale du diabète de cette année qui est « Diabète et famille ». L'objectif est de sensibiliser à l'impact du diabète sur la famille et de promouvoir le rôle de la famille dans la gestion quotidienne, les soins et surtout dans la prévention de la maladie. Donc je voudrais encourager ce que nous faisons déjà puisque nous dans l'éducation nous impliquons, depuis qu'on a commencé dès le départ, nous impliquons la famille dans l'éducation des diabétiques. Je voudrais encourager davantage les familles à accompagner les patients dans toutes les démarches médicales parce que cette famille a un rôle clé de soutien et d'observance dans la prise en charge quotidienne de la maladie.
Merci beaucoup, professeur Maïmouna Ndourmbaye. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine interne de l'hôpital Abbas Ndao, directrice du centre du diabète Marc Sankalé à Dakar, au Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Jessica nous appelle en ligne de Douala au Cameroun. Jessica, bonjour. Allô,
bonjour.
Jessica. Jessica, on vous écoute.
Alors, bonjour.
Oui, Jessica, allez-y.
Voilà, il y a un mois, il y a un mois, à la suite d'un examen d'urine, on a constaté qu'il y avait une présence en excès de corps acétonique. Et le médecin m'a dit qu'il y a une prédisposition au diabète. Bon, depuis ce moment, j'ai quelque peu modifié mon alimentation en consommant davantage de fruits et de légumes, en arrêtant les fritures et en privilégiant les cuissons à la vapeur. La question que j'aimerais savoir si je dois davantage pousser le régime alimentaire, est-ce qu'il doit être aussi strict que celui d'un diabétique?
C'est une très bonne question, professeur Altman.
Oui, alors j'ai l'impression que cette dame n'est pas du tout diabétique, mais qu'elle a eu la bonne idée de manger d'une manière très qualitativement adéquate, puisqu'on recommande effectivement de manger pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, d'augmenter la quantité de fruits et de légumes. Donc c'est une très 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 bonne alimentation, la présence de corps cétoniques était un peu anecdotique et doit pas du tout vous inquiéter. Mais si ça vous a permis de vous alimenter de manière bien meilleure, eh bien continuez. Et moi, je n'aurais pas tendance à vous recommander d'en faire plus parce que c'est déjà très bien.
C'est déjà très bien. Professeur Jean-Jacques Adman, pour compléter un petit peu la question, Jessica, est-ce qu'un patient ou une personne de toute façon qui n'est pas atteinte de diabète va réagir de la même façon aux différents aux différentes céréales, par exemple le riz qui est beaucoup plus sucré que le mil? Est-ce que c'est propre aux aliments ou aux patients?
Il y a ce qu'on appelle un index glycémique, c'est-à-dire le pouvoir sucrant d'un aliment, d'un féculent comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre pour les pays, pour un pays comme la France. Il y a une moyenne qui peut varier d'un patient à l'autre. Et donc justement, les fameuses bandelles glycémiques dont on a parlé il n'y a pas longtemps permettent de vérifier. Bon, le riz a une très mauvaise réputation d'être très sucrant. Mm-hmm. Eh bien, on peut justement, une heure et demie après une absorption d'une quantité significative de riz, voir si chez soi ce riz est effectivement très sucrant ou non. Ben, s'il ne l'est pas tellement, on va pouvoir en manger un peu plus que le voisin.
Donc ce que fait Jessica, c'est déjà très bien. Continuer.
Jessica est parfait.
Merci en tout cas pour votre appel, Jessica, et bonjour à tous nos auditeurs du Cameroun. Professeur, on n'a pas encore parlé des conséquences du diabète. Et quelles sont les conséquences habituelles de cette pathologie?
Alors, je ne sais pas si je vais garder le mot habituel, parce qu'effectivement, quand on diagnostique un diabète chez quelqu'un, hélas, il s'imagine qu'il va forcément être amputé, aveugle, dialysé, des tas d'horreurs de ce genre. Alors, ces complications sont possibles, mais sont loin d'être inéluctables.
On a une première cause de cécité, première cause de dialyse dans le monde. Le diabète, c'est une cause majeure d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, même d'amputation des membres inférieurs. Les complications sont très graves. Comment expliquer des conséquences aussi diversifiées dans tout l'organisme ?
Enfin, premièrement, là, c'est une version un peu dramatisée. Je veux dire, c'est la vérité. Mais enfin, moi, c'est pas comme ça que je m'exprime envers les patients, parce que ces complications sont évitables avec un bon équilibre du diabète, c'est-à-dire des taux de sucre dans le sang proches de la normale ou très proches de la normale. Oui, malheureusement, tous les organes sont menacés, puisque le sang circule dans le cerveau, dans le cœur, dans les jambes, dans les reins, dans les yeux. Et si le sang est trop sucré, eh bien, on va dire, il peut rouiller les organes. C'est vrai qu'il faut rappeler que ces complications sont graves,
possibles et nombreuses. Il y a quand même des décès, hein, autour de cette maladie.
Oui.
1,5 million de décès en 2015, bon, directement liés au diabète.
C'est la vérité, mais le message qu'il faut vraiment, je pense, dire, c'est que c'est évitable. C'est vraiment évitable avec des règles diététiques pas si compliquées. Jessica fait très 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 bien, et avec des activités physiques, comme un autre de vos patients, de vos auditeurs le faisait. C'est le message que c'est évitable me paraît
un bon message à diffuser.
Plus important que la liste des complications effectivement nombreuses.
On en parle pour alerter. En tout cas, on a aussi Aimé qui nous appelle de Lomé au Togo. Aimé, bonjour.
Bonjour, Yara.
Aimé, on vous écoute.
Oui, au fait, moi, je me suis rendu compte que je suis diabétique de type 2, bien sûr, lors d'un bilan de santé en juin dernier. Donc, d'après les différentes analyses, il n'y a pas aucune manifestation clinique. Mais le taux d'hémoglobine glycée était à 11,8% avec une glycémie à jeun de 1,55 grammes par litre. Alors, l'endocrinologue a procédé aux explorations cliniques pour voir s'il n'y a pas de lésions métaboliques ou des dégénérations. Alors, les résultats étaient plus rassurants. Alors, comme traitement, Manisou, Metformin, et le constat est que le premier mois de traitement, le taux de glycémie à jeun baissait jusqu'à 0,9. Et à partir de ça, le taux commence à augmenter régulièrement. Je faisais la prise de sang chaque semaine. Alors, soucieux, je suis reparti voir mon endocrinologue. Il me faisait savoir que je ne devais pas simplement apprécier la variation du taux de glycémie, et qu'en effet, pour apprécier l'efficacité du traitement, il fallait que je reprenne l'analyse de l'hémoglobine glycée. Ce que j'ai fait il y a de cela 2 semaines, Et les résultats révèlent que le taux d'hémoglobine glycée a baissé, c'est à 9,70%, et que le taux de glycémie à jeun était à 1,80.
Alors, professeur,
j'aimerais savoir comment expliquer le fait que le taux d'hémoglobine glycée baisse et au même moment le taux de glycémie à jeun augmente.
Ah, professeur Altman, que se passe-t-il avec ce taux d'hémé?
Non, il n'y a pas de... Enfin, première bonne nouvelle, ça s'améliore, hein, puisque vous aviez un peu plus de 11% et maintenant vous avez 9%. On peut pas avoir tellement mieux en quelques mois de traitement. Je vous rappelle que l'objectif est de se rapprocher de 6 idéalement, en sachant que 7 sera encore acceptable. Donc vous avez fait la moitié du chemin. Bon, la glycémie à jeun est un examen ponctuel. Si on vous le fait à 8 heures ou à 9 heures, ça vous indique à cette seconde précise combien vous aviez de sucre dans le sang. Par contre, l'hémoglobine glycée intègre toutes les variations depuis les 3 derniers mois. Donc si le diabète est en amélioration, eh bien l'hémoglobine glycée va baisser. Et si, pour des raisons, quelles qu'elles soient, au moment précis où on a fait la glycémie, elle est un petit peu élevée, ça n'est pas inquiétant du tout. Donc vous devez continuer à suivre votre traitement, pas l'hémoglobine glycée, et à l'extrême, moi je prescris plus la glycémie à jeun, par exemple.
Et mais est-ce que les explications du professeur Altman sont assez claires ?
Oui, j'ai compris.
Merci beaucoup pour cet appel.
Bonne
Michel.
Santé.
Michel nous appelle de Port-Gentil. Michel, bonjour.
Bonjour Diarra. Bonjour professeur.
Bonjour.
Je vous appelle, c'est juste, je suis diabétique depuis 1980. Ça me fait 38 ans, j'ai 61 ans. Mm-hmm. Juste pour un témoignage, pour dire que mon médecin traitant, il y a 20 ans, il m'a dit, tu es diabétique. Maintenant, tu devras vivre avec ça. Il faut apprendre à accepter ta maladie. Et vite, tu vivras avec tout le reste de ta vie. Je suis diabétique de type 1. Et je suis sous insuline. 3 insulines par jour, 2 nouveaux rapides, 1 mistar le soir. Je suis apporté d'un glycophage. Mais vraiment, je me porte bien. Il n'y a pas de souci particulier. Sauf quelques petites... comment on dit ça?
Des complications?
Voilà. Mm-hmm. Un peu, bon, c'est juste quand un peu la glycémie qui baisse, un peu trop. Mais je me rattrape ce jour après. Mais vraiment, bon, je pense que tout le monde devrait accepter sa maladie. Hein. C'est comme ça. Vraiment, je suis très content de mon médecin et de toute l'équipe qui travaille avec lui au CHUL. Et puis je suis, concernant les médicaments, j'ai une assurance maladie. Parce qu'on a une assurance maladie au Gabon, et donc je paye beaucoup moins cher mes médicaments. Beaucoup moins d'insuline, et puis sur le diabète, après il y a la tension qui s'est greffée. Et je prends le Bipéthélax 10, un comprimé par jour. Et côté tension, c'est stabilisé, mon diabète aussi, pour l'instant tout va bien.
C'est un beau témoignage qu'on a là, professeur Altman, ça va même nous permettre de quasiment conclure notre émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Michel et puis à tous nos autres auditeurs?
On peut féliciter ce patient. S'il a très bien accepté sa maladie, je pense qu'il s'est très bien soigné. Il a presque 40 années de diabète de type 1. Vous vous rappelez, sans dramatiser, que ce diabète était mortel en quelques mois. Donc lui, il a déjà vécu près de 40 années avec cette maladie. Il l'a très bien accepté et c'est magnifique. Vous voulez que j'avance une petite conclusion, c'est
oui,
ça?
D'abord, alors bravo à vous, en tout cas, Michel. On vous souhaite une bonne santé, en tout cas en direct de Port-Gentil au Gabon. Et puis on va en profiter, professeur Altman, pour conclure.
Voilà, alors
très
rapidement. Alors, vous avez vu, on était un petit peu en discussion avec notre charmante présentatrice sur la manière de présenter les choses. Donc, c'est vrai que c'est une maladie terrible et qu'il faut faire beaucoup de choses encore pour elle. Et l'Association française des diabétiques en fait beaucoup, mais c'est vraiment une maladie évitable. Elle est caractérisée actuellement par une véritable épidémie, c'est-à-dire que ça augmente tout le temps et ça devrait disparaître. Donc, vraiment, à mon avis, manger équilibré et avoir une activité physique significative ne sont pas des mesures si difficiles et tout le monde devrait les faire, d'ailleurs diabétique ou pas diabétique.
Merci beaucoup professeur Altman.
C'était Priorité Santé. connectés avec Suno Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.